Bonjour à tous et bienvenue à Champ contre Champ, rendez-vous mensuel avec le cinéma proposé par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante. Émission présentée par moi-même, Jean Lot, et qui sera animée par Tatiana Zazulinski. Bonjour Tatiana.
Bonjour.
Jacques Champeau, bonjour Jacques.
Bonjour.
Et Jean Wikowski, bonjour Jean.
Salut Jean.
Octobre était morose, novembre nous gâte, je ne parle pas du temps bien sûr, mais du cinéma. Car c'est un superbe repas sur l'herbe du grand écran que de se voir proposer le même mois des films mijotés par des chefs comme les frères Cohen, comme Jacques Doyon, comme Roman Polanski, comme Bertrand Tavernier, comme Claude Lanzmann, sans oublier Albert Serra, même si son histoire de ma mort a davantage provoqué chez beaucoup de spectateurs une sensation d'interminable gavage plus que celle de rester sur sa fin. Disons que de toute manière c'est un film qui marque, comme d'autres aussi d'ailleurs, sans oublier Guillaume et les garçons à table qu'il ne faut pas manquer. Donc on ne va pas se plaindre, mais commencez tout de suite en vous annonçant les trois films qui constituent notre sélection du mois. On parlera ainsi d'abord de Inside Llewyn Davis de Joel Ethan Cohen, puis de La Vénus et la fourrure de Roman Polanski, et enfin de l'OVNI Borgman, d'un réalisateur moins connu que les autres, le Hollandais Alex van Warberdam. Et en terminant avec les coutures habituelles. Commençons donc par Inside Llewyn Davis, des frangins duettistes Joel Ethan Cohen, grand prix du jury à Cannes, pas très bien accueilli alors en dépit de cela, on disait en faisant une fine bouche un peu navrée que c'était un Cohen mineur, et puis la tendance s'est inversée à la sortie du film, début novembre, tout le monde s'est rassemblé dans une sorte d'unanimité laudative, on disait qu'on y constatait une sorte de synthèse de l'univers des frères Cohen, avec aussi bien leur traditionnel personnage de perdant que des figures hautes en couleur comme dans The Big Lebowski, qu'on y trouvait des décors suintants expressionnistes à la Barton Fink, et qu'on pouvait également y voir une sorte de transposition de A Serious Man dans le monde du folk. Et de manière générale, qu'on y trouvait l'humour noir et l'atmosphère kafkaïenne qui sont un peu la signature des deux frères. Tatiana, tu me disais avant d'avoir vu le film que ce qui te donnait envie d'y aller, c'était le magnifique charou Ulysse, le bien nommé. Après l'avoir vu, en es-tu resté à Ulysse ?
Ulysse et les autres, mais Ulysse a un très très beau rôle, même s'il est interprété par six acteurs différents, six chats différents. Oh. C'est pas facile de tourner avec des chats. Bon, pour parler de Inside Llewyn Davis. Il est des rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Ainsi, c'est le 1er mai pour le Muguet, 3e jeudi de novembre, c'est Beaujolais Nouveau. Pour certains, c'est le Woody Allen de l'année. Moi, c'est Joël et Ethan Cohen. Avec le frère Cohen nouveau, pas de risque. Ça se déguste. La technique est toujours irréprochable, les acteurs excellents et les dialogues mitonnés avec humour et brio. Dans ce nouveau cru, l'histoire est celle de Llewyn Davis, jeune chanteur folk. Dans le rue d'hiver 1961, il survit en squattant les canapés de ses amis et en chantant de temps en temps dans des clubs de Greenwich Village. Il n'arrive pas à surmonter le suicide de son partenaire avec lequel il avait enregistré son premier disque et va d'échec en échec, jusqu'à envisager de s'engager à nouveau dans la marine marchande.
Oui, on se sent dès le début que ça va devenir noir, noir, noir. Mais on n'est pas pour rien chez les frères Cohen.
Oui, la figure du loser, ça irrigue la filmographie de Joel et Ethan Cohen. On s'attache pourtant à ces perdants qui nous font rire et surtout qui nous émeuvent, parce qu'ils sont profondément humains. Comme des personnages de bande dessinée, leurs héros ratent souvent tout ce qu'ils entreprennent, mais rebondissent toujours. Joël et Ethan les font traverser les pires catastrophes, mais les sauvent du drame en les tirant par la peau du cou grâce à l'humour. Alors, d'où vient qu'on reste un peu sur une impression mitigée à la fin du film ? Est-ce que c'est parce que Llewyn n'est pas toujours très sympathique ? Il sabote le tour de chant d'une vieille folkeuse à la cithare, tape ses copains, néglige son vieux père, séduit son ex-petite amie parce qu'elle vit avec un autre musicien qu'il déteste et qu'elle veut se ranger, juste exister. Est-ce parce que, musicien conscient de son talent, il refuse les compromissions jusqu'à l'excès ? Après un long périple jusqu'à Chicago pour rencontrer un agent influent, il lui chante sa chanson la plus désespérante et refuse une proposition qui ne lui semble pas à sa hauteur. Mais par ailleurs, il finit par aller voir son vieux père et lui offre sa plus émouvante interprétation de sa chanson préférée, « Les bancs de Haran ». De même, alors qu'il laisse échapper pour tout arranger le charou et bien-aimé d'une orageuse famille juive qu'il hébergeait, il n'a de cesse de le retrouver dans tout Greenwich. Chat sous le bras, guitare à l'épaule et sac dans le dos, il parcourt les rues, prend le métro et pour finir, l'embarque en voiture pour Chicago.
Alors c'est quoi ce chat ? Il sert à quoi selon toi ?
Ben, Ce chat, c'est ce qui donnera des pistes pour interpréter le film. Ulysse, le nom de ce gros chat roux resté anonyme pendant la plus grande partie du film, c'est un double animal de Llewyn Davies. Promis comme le héros mythologique à une longue et douloureuse errance, parsemée d'épreuves redoutables. Mais au lieu de revenir à Ithaque et de reconquérir son royaume et sa femme, notre anti-héros moderne revient à son point de départ, le Gaslight Café, les mains vides, plus seul et démuni que jamais. Heureusement, c'est l'humour réjouissant des frères, reste l'humour réjouissant des frères Cohen. Un exemple, ils adorent la musique folk sur laquelle est bâti le film. Mais ils la tournent en dérision avec le personnage interprété par le jubilatoire John Goodman. Tu joues quoi déjà ? De la folk. Oh, je te croyais musicien. Il est vrai que nous sommes au début des années 60, le rock était fini et le folk émergeait à peine. Mais il faudra encore 10 ans avant que Dylan connaisse le succès. Ce froliquet de Dylan qui apparaît dans la dernière séquence du film pour chanter « Farewell ».
Oui, je dois dire que j'ai rarement vu un film aussi sombre et en même temps, je dirais, délectablement sombre. Car en fait, en sortant, j'ai éprouvé un sentiment de jubilation. Je veux dire que le summum du sombre, d'ailleurs, s'est apporté moins par son histoire que par sa construction. Qui finalement, c'est vraiment sadique pour ce pauvre Llewyn Davies. Le film décrit une boucle. Il commence par une scène où le malheureux chanteur se fait tabasser. Il se termine par la reprise de cette même scène. Ce qui veut dire que, comme dans ces films de science-fiction de retour sur le passé, Llewyn Davies se trouve ramené à son point de départ. On peut s'imaginer que le matin suivant, il va se retrouver chez ses amis Gorfine et que tout pour lui va recommencer à l'infini. C'est atroce. Jacques.
Oui, moi je dois dire que je suis partagé sur ce film. Je suis en gros d'accord avec tout ce que vous avez dit, hein, et notamment ce qu'a dit Tatiana. Je trouve l'atmosphère de l'époque et de Greenwich Village bien rendue. Les images sont superbes, les personnages sont convaincants, mais je trouve que par rapport à d'autres productions des frères Cohen, ce film manque un peu de rythme. On retrouve leur humour, mais les rires ou les sourires m'ont paru trop espacés, pas assez denses, ce qui fait que, honnêtement, je me suis un peu ennuyé. J'ai eu un peu l'impression que le film hésitait entre plusieurs genres, le road movie, le biopic, la comédie, même s'il reste très frères Cohen. Mais par exemple, j'avais adoré Serious Man, hein, qui était déjà l'histoire d'un loser. Mais alors, dans Serious Man, on ne s'ennuyait pas une seconde, quoi. Il y avait de l'humour tout le temps. Là, est-ce que c'est justement parce qu'il veut décrire une situation encore plus noire? Mais, les traits d'humour, ils arrivent de manière un peu trop distillée à mon goût, quoi. Mais voilà.
Oui, je veux dire que moi aussi, j'ai un petit peu le sentiment que je trouvais ça peut-être un peu long, un peu répétitif. Toi, tu partages quoi?
Oui, j'ai aimé. Moi, globalement, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé l'humour du film, les vues de New York, la belle musique, le chat qui se balade. Mais il m'énerve un peu quand même, ce film, parce que ce type, il me tape un peu sur le système, objectivement. Il n'est pas très sympathique et ça m'a même pas mal gêné. Par exemple, quand il s'amuse à chanter, quand il va à Chicago, il s'amuse à chanter un truc qui manifestement ne plaira pas. On a l'impression, c'est énervant cette façon de toujours vouloir se dégrader.
C'est un loser qui se veut loser finalement.
Complètement, oui. Un peu trop dépressif, voilà.
Oui, Tatiana, tu
veux. Moi, je pense de toute façon qu'il est très conscient de la valeur de sa musique et de ses textes.
Et d'ailleurs, la musique
est très très belle, les textes sont très très beaux. Mais la nostalgie que distille le film, c'est aussi un peu ce qui est distillé par la folk music, par les
tout
chansons.
À fait, oui.
Si on comprend les paroles des chansons, c'est très nostalgique, c'est très sombre quand même.
Oui.
Et c'est très beau.
Le jour du départ, Hang Me, c'est magnifique. Enfin, oui. L'espèce de par quoi ça commence le film.
Oui. C'était d'ailleurs le titre favori du personnage qui a inspiré les frères Cohen pour ce film et qui est un protest singer, Dave Van Ronk. D'ailleurs, une des pochettes de disques de Dave Van Ronk, c'est Inside Dave Van Ronk, ce qui a inspiré le titre aussi du film.
Oui. Et puis avec un casting qui est magnifique.
Absolument.
Tu peux nous rappeler un peu le casting là, parce que vraiment, je crois qu'on retrouve vraiment là des personnages à la Cohen, des personnages un peu grotesques, un peu exagérés, pétrifiés, je pense au producteur là et à celui qui l'accueille, qui lui dit justement, après avoir écouté cette chanson, on fera pas d'argent avec ça.
Bah, déjà, il y a le rôle principal qui est Oscar Isaac. C'est un premier grand rôle. Il est formidable parce qu'il chante, il compose, il interprète lui-même, comme tu dis, le premier titre. J'ai un peu un reproche à faire, et peut-être aussi, ça c'est le rejet qu'on peut avoir pour certains pour ce film, c'est que je trouve qu'il manque de charisme. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui brille dans son œil. Il s'est toujours absolument monocorde. Mais autour de ça, vous avez des gens comme Justin Timberlake, le chanteur qui chante, Karen Mullingham, John Goodman. Alors là, de toute façon, moi, c'est un de mes acteurs favoris. Il est extraordinaire, ce vieux musicien obèse. Murray Abraham, dans le rôle de l'impresario de Chicago, Bud Grossman. C'est du lourd quand même, c'est vraiment très très belle interprétation.
Oui, et puis enfin Jacques, tu fais un petit peu la fine bouche là quand même, parce qu'il y a une mise en scène qui est assez extraordinaire aussi.
Non mais je crois que Tatiana a touché un bon point quand elle disait qu'il manquait un peu de charisme. Au fond, le problème je pense que moi j'ai eu avec ce film, c'est que je n'arrive pas vraiment à m'identifier au personnage principal et à son problème, quoi. C'est-à-dire que, comme je disais, il n'y a pas assez d'humour pour que ce soit une bonne comédie. Et il y a, à mon sens, j'ai un peu de mal à être pris par le personnage pour que, effectivement, ce soit, j'allais dire, une bonne tragédie, quoi. Et je reste un peu entre les deux.
Oui, ben, on est bien d'accord, hein. C'est un peu la faiblesse du personnage principal qui gâche un peu le film. Mais bon, ça reste quand même un beau spectacle.
Oui. Hein, et puis, on peut avoir l'impression, effectivement, que trop, c'est trop, quoi. Tout ce qui lui tombe sur la tête,
oui,
on arrive à penser
absolument.
Que c'est... Quand on le voit se faire traiter de tous les noms, de traiter de merde, etc., par sa copine au début, et qu'il encaisse tout ça, et puis il repart. Mais c'est en même temps la force du personnage. C'est quelqu'un qui repart toujours.
Oui, enfin, qui repart de plus en plus courbé, mais enfin, bon, qui repart.
C'est comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes.
Oui, exactement.
Jusqu'à la fin.
Oui, d'ailleurs, à la fin, il se fait retabasser, comme au premier coup, on se demande.
C'est la même scène.
C'est la même scène, oui. C'est une boucle.
Sauf que là, on explique vaguement pourquoi, quand même, oui. Dans la deuxième fois.
Hein. C'est ça. On reprend la scène un petit peu avant le moment où on l'avait prise au démarrage. Bien, ben je vois que on est quand même grosso modo d'accord, même si Tatiana fait plus l'affection pour ce film, mais je crois que c'est à cause du chat. Voilà.
Miaou.
Miaou. Bon, on va passer à un autre film présenté à Cannes cette année aussi. C'est un peu passé inaperçu, pourquoi j'en sais trop rien, c'est La Vénus à la fourrure de Roman Polanski. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui fait courir Roman Polanski depuis quelques années, parce que il est difficile de le dire tant il semble changer de corde chaque fois qu'il bande son arc. Rien qu'en se limitant à ce siècle, il a ainsi tâté de la reconstitution historique avec Le Pianiste en 2002, puis de l'adaptation de chef-d'œuvre littéraire avec Oliver Twist en 2005, l'un et l'autre, et surtout le second, relevant à mon point de vue d'une illustration un peu académique. Puis en 2010, il a réalisé un thriller, The Ghostwriter. Alors par contre, pour moi, ça c'est absolument magnifique, c'est vraiment un grand Polanski. Puis, pour moi, à mon sens, nouvelle rechute en 2011 avec Carnage, d'après une pièce de Yasmina Reza. Et puis voici aujourd'hui cette Vénus à la fourrure, qui a au moins un point commun avec Carnage, d'être l'adaptation d'une pièce de théâtre et de se dérouler dans un huis clos. Ici, celui d'une salle de théâtre. Pour quel résultat, Jacques ?
Pour moi, en tout cas, c'est une réussite. C'est un film brillant, plein d'humour. Polanski, comme tu dis, a adapté à l'écran une pièce de David Ives, qui d'ailleurs co-signe le scénario, et la pièce est elle-même tirée du roman éponyme de Serge Hermasor. Un grand classique de la littérature érotique sadomasochiste. Alors, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un film ni érotique ni sadomaso, et c'est d'ailleurs un style dont Polanski se moque assez joyeusement dans le film. Polanski revient, comme tu l'as dit, au huis clos, qu'il aime beaucoup, et bat dans ce film des records dans l'économie de moyens, puisqu'il y a un lieu unique, un théâtre, et deux acteurs seulement pour toute la durée du film. On peut difficilement faire moins, mais alors aussi quels acteurs, hein. Le film est magistralement interprété, je pense que sinon d'ailleurs il tiendrait pas la route, par Emmanuel Seignier et Mathieu Amalric, qui de manière anecdotique, enfin pas anecdotique d'ailleurs, s'est fait la coiffure de Roman Polanski et qui lui ressemble de façon assez stupéfiante. Donc là il y a une identification très 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 forte. Alors le film commence par un très long travelling sous une pluie battante qui aboutit aux portes d'un théâtre et des portes d'ailleurs qui s'ouvrent toutes seules comme par enchantement. À l'intérieur, on découvre un metteur en scène qui est fatigué. Il a auditionné, alors comme il le dit, 35 pétasses dans la journée pour le rôle-titre de sa pièce. Il s'appelle Thomas, il en a sa claque, il veut rentrer chez lui et il ne pense qu'à une chose, renvoyer cette Vanda qui est arrivée en retard. Alors, certes, elle a le même prénom que l'héroïne de la pièce, mais elle est vulgaire, tatouée, affublée d'un collier de chien, moulée dans une robe de latex. Enfin bref, c'est tout à fait ce qu'il ne veut pas, ce dont il ne veut pas pour sa pièce. Mais alors, elle résiste, elle pleure, elle s'incruste et elle finit par obtenir 3 minutes d'essai. Et bizarrement, elle a un grand sac dans lequel elle sort tout plein d'accessoires. Et puis, elle a aussi le texte de la pièce. Et encore plus étonnant, elle semble le connaître absolument par cœur. Et elle commence, et là, stupéfaction de Thomas, on pourrait dire coup de théâtre, elle nous plonge, sa voix change, et elle nous plonge vraiment dans l'univers du 19e siècle. Elle est la Vanda de la pièce. Alors, le film est d'abord cela, c'est la magie du théâtre, la transformation d'un acteur en son personnage, le pouvoir de créer un monde pour le spectateur.
Oui, mais c'est un monde centré presque exclusivement sur le rapport entre ces deux personnages. Hein. Sur quoi dirais-tu que ce rapport est basé ?
Ah ben c'est un rapport très clairement fondé sur la domination. C'est un thème que Polanski a beaucoup exploré depuis son premier film, Le couteau dans l'eau. Dans La Vénus à la fourrure, alors la démonstration sur la domination est éblouissante. On part d'une situation où le metteur en scène Thomas, qui est aussi l'auteur de la pièce, devrait être le tout-puissant. Il est l'intellectuel, il est celui qui sait, il est le démiurge qui a créé ses personnages. Et face à lui, Vanda devrait être subjuguée, dominée en situation d'infériorité. Or, très vite, Tout va changer, tout s'inverse. Il est déstabilisé d'abord par le talent de l'actrice, et puis il va perdre peu à peu toute fierté face à la femme et tout accepter d'elle. Alors elle règle les éclairages, elle rajoute une scène, elle critique son texte, elle refait la mise en scène. Elle le subjugue autant par son charme d'ailleurs qu'en le flattant, en flattant sa vanité d'auteur et d'acteur. Elle le domine aussi d'ailleurs physiquement par la taille. Il se rebelle parfois, mais très peu. Et finit par se retrouver psychanalysé sur le divan du docteur Vanda, qui a mis des grosses lunettes noires, hein, ça fait sérieux, et une veste sur ses dessous sexy. Elle l'oblige enfin à se travestir en Vanda, et il finit efféminé, travesti, attaché à une espèce de cactus phallique, autour de laquelle Vanda se livre à une bacchanale de déesse païenne.
Oui, alors là on décolle complètement de tout rapport avec la réalité, même si c'est la réalité de convention du théâtre.
Oui, alors là, on nage complètement dans le fantastique, mais là aussi, c'est un thème qui est très cher à Polanski, que ce soit de Rosemary's Baby au Locataire, tout ce qui est l'étrange, la frontière floue entre réel et imaginaire, c'est son truc à Polanski. Alors, qui est effectivement Vanda ? Qui est cette femme qui semble tout connaître sur la pièce, mais aussi sur le réalisateur, sur Thomas ? Qui est à la fois capable de déclamer les bacchantes et de sortir de son grand sac qu'une veste de l'époque de la pièce ? Qu'est-elle venue faire ? Passer une audition ? Enquêter sur lui ? Bouleverser sa vie ? En fait, on passe continuellement de la pièce jouée au questionnement sur la pièce et à la vie réelle. Et la passion, l'envoûtement de Thomas, on ne sait plus à la fin s'il se situe dans la pièce ou dans la vie réelle. En fait, Thomas semble une sorte de docteur Faust damné par une Vanda qui est à la fois Vénus et Marguerite, quoi. Les époques, d'ailleurs, s'entremêlent jusqu'à cette fin qui évoque les mythes antiques. Donc, pour moi, un film superbe, très intelligent, il faut aimer un peu le théâtre, mais dans lequel Polanski nous emmène sur plein de pistes, et comme à son habitude, alors là, pour le coup, c'est plein d'humour, il ne se prend pas au sérieux.
Oui, moi aussi, je trouvais ça, c'est vrai, comme toi, un peu assez fascinant. Je crois que c'est moi qui convient. Je crois que Polanski, Amalric et Emmanuel Seigné ont dû beaucoup s'amuser à mettre en place cet éblouissant jeu de miroir. On s'y perd et c'est complètement jubilatoire. Emmanuel Seigné, si on regarde un peu, et successivement, et parfois à la fois, la Vanda qui vient pour l'audition, l'héroïne du roman de Sader Mazoch, le personnage de la pièce adaptée du roman, et l'incarnation de Vénus, plus une femme elle-même. Quant à Mathieu Amalric, il incarne non seulement le metteur en scène de la pièce, mais aussi l'acteur qui va le jouer, et parfois l'actrice. Sans compter, et c'est vraiment le superbe jeu de miroir, c'est que Emmanuel Seigné et la femme de Polanski, à qui Mathieu Amalric, tu le rappelais, ressemblent comme un double.
Absolument.
Oui, on dit d'ailleurs qu'ils sont vaguement parents puisqu'ils viennent tous du même village polonais.
Il y a du cousinage dans l'air.
Il y a du cousinage dans l'air. Non, moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que pour moi c'est la démonstration de ce que peut faire le cinéma et ce pourquoi j'aime le cinéma. Pourquoi ? Parce que Polanski est un metteur en scène génial. Ces deux acteurs sont formidables, et si on n'avait pas ça, si on n'avait pas ces trois personnages, on aurait devant nous un espèce d'effroyable nanar, un truc, une comédie de boulevard qui voudrait rien dire. Et je trouve que ça, c'est quand même la vraie démonstration du cinéma. Parce qu'on a quoi ? Un docteur Faust qui se fait retourner par une garce, un mélo freudien ridicule et invraisemblable, un scénario prévisible dès l'instant où Vanda franchit la porte du théâtre. Donc, on n'aurait rien et on a un truc formidable. Donc, c'est quand même une belle démonstration.
C'est assez extraordinaire. D'ailleurs, on est toujours dans le faux. C'est un peu ça qui est extraordinaire. On est toujours dans le faux et en même temps, on est dans le vrai. L'espèce de vraiment, là, on est dans le spectacle. Par exemple, le jeu d'Emmanuel Seigné, dès son apparition, très vulgaire, c'est très théâtral, tellement appuyé qu'on sait qu'on est dans une représentation. Et malgré tout, ça passe.
Oui, moi je sais que je n'aime pas trop le théâtre au cinéma, j'aime pas non plus les travestis au cinéma, mais Polanski, il peut tout faire. Et là, vraiment, c'est magnifique.
C'est bien, on est d'accord.
Enfin, là où je serais quand même un petit peu moins d'accord avec ce que Jacques disait tout à l'heure, c'est quand il parle du glissement du fantastique dans le fantastique et l'imaginaire. Alors je trouve que là, c'est un peu moins réussi parce que ça reste justement du représenté. Et il me semble que dans les autres films de Polanski, on passe en général carrément de la frontière entre réel et imaginaire, que ce soit à travers la folie ou autre. Alors que là, on reste dans le domaine du jouet et on le sait. Voilà, ça me paraît un petit peu limite.
Oui, on reste dans le domaine du jouet à une nuance près. C'est que finalement, on ne sait plus très bien quand même de quoi relèvent les sentiments de Thomas. C'est-à-dire que si effectivement il est fasciné au niveau simplement purement théâtral ou de la pièce, ou si ça va un peu plus loin par rapport à cette femme, quoi. Mais oui, on est effectivement dans le théâtre, on est dans une façon fascinante de montrer le théâtre. Il y a une chose dont j'ai pas parlé aussi, c'est les objets. Alors les objets sont quelque chose que Polanski aussi aime bien manipuler. Et là, on a plein d'objets. On commence à arriver sur cette scène où, alors bon, clin d'œil, le décor est en fait ce qui reste de la représentation précédente, c'était de la chevauchée fantastique. Il faut le faire. Donc c'est d'ailleurs la raison d'être de ce cactus. Et puis alors il y a tous les objets que Vanda sort de son grand sac, et là aussi c'est totalement hétéroclite, c'est-à-dire que la fameuse fourrure qui doit faire rêver les hommes est une espèce de couverture absolument minable, et à côté de ça elle va sortir pour Thomas une veste d'époque qui est absolument superbe. Donc il y a un mélange, alors il y a un couteau évidemment, parce que on peut pas concevoir un film de Polanski sans un couteau, donc il y a un couteau, il y a évidemment des chaussures, il y a un collet de chien, et puis il y a effectivement ce cactus phallique, et alors, qui est extraordinaire parce qu'on le voit de face, donc rond comme un bon cactus, etc. Et puis à la fin, quand il est attaché à cette espèce de poteau de torture qui est devenu le cactus, eh bien la caméra se déplace et on voit qu'en fait c'est un bout de planche, c'est-à-dire qu'il est complètement plat, il se dégonfle totalement. Donc il y a un jeu sur les objets. Alors paradoxalement, il y a un truc très amusant, c'est que le seul objet qui n'existe pas, qui n'est pas vraiment montré, c'est le contrat qu'ils signent ensemble. Là, ça reste virtuel.
Là, ça reste virtuel. Et puis, une chose dont on n'a pas encore parlé, qui m'a... Ça ajoute encore aux surprises du film. C'est le générique de la fin. C'est ce générique avec ce défilé de femmes nues où il y a toutes les reproductions de tous les grands maîtres de la peinture, de Titien Véronèse, d'Ingres Villard. Et on se rend compte à ce moment-là que finalement, peut-être le sujet, l'image dans le tapis, le sujet de base du film, c'est la femme finalement.
Oui, c'est la Vénus.
C'est la Vénus. Voilà, ouais, c'est la Vénus. Ouais,
absolument.
Une minute de pause musicale pour donner le temps de reprendre un peu nos esprits avant de parler de Borgman. Thank you. On va reprendre avec Borgman, du réalisateur hollandais Alex van Warmerdam. Lui aussi, film présenté à Cannes, est rentré lui aussi chez lui sans sucette. Alex van Warmerdam avait connu une certaine réputation internationale avec Abel en 1986, avec les habitants en 1992, et surtout avec La Robe en 1996, film dont l'humour froid et décalé faisait des sortes d'ovnis cinématographiques. Puis on l'avait progressivement perdu de vue, avant de le voir revenir aujourd'hui avec ce Borgman tout aussi inclassable, tout aussi ovni que ses précédentes réalisations, et sans doute encore plus féroce. Car ce qu'a en tête Borgman, ce vagabond hirsute délogé de sa tanière, et dont la prononciation du nom Borgman a quelque chose d'une éructation, ce n'est rien de moins que d'éradiquer la terre de la connerie qui la contamine, en particulier celle des nantis. Vaste programme. Il me semble du moins que c'est en partie celui de Borgman. À moins, Jean, que tu sois de notre avis.
Non, tu as en partie raison, Jean. Mais le film me semble quand même plus complexe que la lutte uniquement pour l'éradication de la bêtise humaine. Commençons par le commencement. Dès les premières images, nous voyons un homme boucler sa cartouchière. Ensuite, un prêtre dit la messe, communie, puis lui aussi, après, saisit son fusil de chasse. Enfin, un troisième homme aiguise un long pieu et se joint aux deux autres comme s'ils allaient débusquer des vampires. Le trio se dirige vers la forêt pour éliminer des hommes qui dorment sous la terre, comme dans un tombeau.
Oui, ça a l'air de commencer comme un film gore. Vous n'en restez pas là.
Non, heureusement, c'est pas du tout un film gore. Ce n'est ni La Nuit des Morts Vivants, ni Alien, ni Nosferatu le Vampire. Mais quand même, nous serons emportés par le bizarre, sans jamais avoir peur, comme dans un film d'horreur, heureusement. Revenons au déroulement du film. Après s'être échappé de la forêt, le personnage principal, Camiel Borgman, va sonner à la porte d'une maison moderne, de verre et de béton, dans un quartier résidentiel. On pense presque à la maison dans le film de Tati, mon oncle, qui était ultra moderne à l'époque. Il demande le secours élémentaire d'un bain, mais est rossé violemment par le propriétaire, qui est un cadre sanguin, à col blanc, soucieux de préserver son confort bourgeois. Grâce à la complicité de la maîtresse de maison, qui peut-être est déjà troublée par le charme canaille de Borgman, celui-ci s'établit au fond du jardin, puis s'insinue peu à peu jusqu'au cœur du foyer de cette famille parfaite, en particulier auprès des trois enfants et de leur nounou. Pour obtenir sa vengeance, puisque Borgman veut se venger de la rossée qu'il a pris, il va prendre la place du jardinier, simplement après l'avoir assassiné, lui et sa femme, ainsi qu'un postulant au même poste de jardinier. On retrouve alors la même exactitude et la même froideur que le héros de Théorème, le film bien connu de Pasolini. De fait, le réalisateur, donc je vais essayer de le dire son nom, c'est pas simple, Alex van Warmerdam, effleure plusieurs registres sans jamais s'y engouffrer totalement. Par exemple, on peut penser à une fable fantastique, à un conte à morale, à une comédie burlesque, à une satire sociale. Parfois même, il y ajoute des touches d'humour ou de dérision, comme s'il se moquait de lui-même. Par exemple, pour se débarrasser des cadavres de leurs victimes, ils coulent leur tête dans du béton avant de les jeter dans la rivière, où ils iront d'ailleurs se baigner plus tard. Une des grandes forces du film est que le réalisateur reste toujours un peu extérieur et qu'il ne veut rien démontrer. Par exemple, prenons le thème de la satire sociale. Le personnage de Marina, la maîtresse de maison, dit sa culpabilité pour avoir la chance de vivre dans l'opulence d'une société occidentale et pense qu'elle est légitimement punie pour cela. Ce pourrait être la clé du film, mais c'est pas ça. Le film fait aussi une place particulière aux enfants. Ceux-ci ne sont pas encore corrompus par la civilisation comme leurs parents. Ils seront donc épargnés. Ce sont eux qui sont les plus réceptifs aux hommes des bois, surtout la plus jeune Isolde. Borgman est gentil avec eux, il leur raconte des histoires et finalement les emmènera avec lui.
Mais alors finalement pour toi, que veut montrer ce film ?
C'est une bonne question et j'ai un peu de mal à y répondre. On pourrait parler de la douloureuse intégration de l'étranger dans nos sociétés capitalistes modernes, mais le réalisateur lui-même rejette cette hypothèse dans les interviews qu'il a données à la presse. Il faut avec lui se laisser porter par son récit et le spectacle qu'il en donne, et laisser voguer notre imagination sans s'apesantir. Au fond, c'est une fable dont il faut garder le mystère. Mais on peut dire aussi que c'est son point faible, car en fin de compte, Warmerdam ne donne pas de clé et laisse notre esprit cartésien passablement déstabilisé.
Oui, c'est un peu l'effet que m'a laissé ce film. Celui de pas très bien savoir où Alex van Warmerdam veut nous emmener. Ceci dit, il y a quand même un fil rouge, hein. Même s'il est très grossièrement faufilé, là, je trouve que tu ne l'as pas tellement évoqué, mais c'est celui qui commence avec la phrase faussement biblique du début. Ils descendent sur terre pour grossir les rangs, et qui ressort à la fin quand on voit Bergman et ses complices s'enfoncer dans la forêt en demandant les enfants. De ce fil rouge, il découle quand même que Borgman est une sorte d'extraterrestre qui détruit tout sur terre et embauche les jeunes de chez nous pour sa planète. Maintenant qu'on ne saisisse pas les raisons de son comportement me paraît tout à fait logique. Il n'y a que les auteurs de la guerre des étoiles pour s'imaginer que les habitants d'ailleurs, s'il y en a, ont la même façon de raisonner que les humains. Oui, Borgman est un alien. Comme moi, Borgman est un alien.
Oui. Je ne suis pas complètement convaincu, moi, tu vois, parce que, effectivement, on a ce clin d'œil aux extraterrestres au début et à la fin. Bah, sauf que pendant tout le film, on les oublie un peu, quoi. Pour moi, je suis sans doute trop cartésien, mais j'ai pas beaucoup aimé ce film parce qu'il est, pour moi, il est très confus. Il embrume à tous les genres. Alors, on prend un peu de théorème, hein, on prend un peu de psychologie, on prend un peu de Haneke, on prend un peu de gore, et puis on mélange tout ça. Alors, on est parfois dans le burlesque, mais pas toujours. Donc, on se prend à se demander si c'est pas qu'on a raté quelque chose. On est parfois dans un film au climat angoissant, mais sans qu'on comprenne vraiment la motivation des personnages. Alors certes, ils sont extraterrestres, on peut ne pas les comprendre, mais enfin, ça ne suffit pas complètement. Alors, il y a des trouvailles, hein, les cadavres flottant à la verticale, là, comme des plantes aquatiques, ça c'est superbe, mais pour moi, ça ne suffit quand même pas complètement à faire un film. Et alors l'interprétation du film comme une métaphore de notre société, oui, pourquoi pas, mais bon, ça, c'est, dans ce cas-là, c'est un petit peu lourd. Et pour moi, ça suffit pas à faire un bon film, quoi. Donc pour moi, je trouve qu'il y a des idées, il y a pas mal d'idées, mais c'est un film un peu raté, quoi.
Je ne sais pas si c'est raté. Moi, je l'ai trouvé dérangeant, oppressant. Je me suis posé la question de quelle sorte de film c'était là, un thriller ou un film d'épouvante, un film de vampire, on voit le pieu, même si c'est un pieu non pas en bois mais métallique, un film d'exorcisme. On pourrait le penser avec l'image du prêtre et des villageois armés de fusils à donner pieux partant exterminer d'étranges personnages terrés dans la forêt. Ou alors est-ce que c'est une métaphore du nazisme? On pense à la légende des surhommes germaniques cachés dans la terre pour sauver la race élue. Alex van Warmerdam, d'après ce que j'ai lu, dit avoir voulu faire un film d'émotion. Il n'y va pas par quatre chemins, c'est réussi, on est saisi, on a peur. Mais le plus grand malaise que m'a provoqué ce film, c'est que je l'ai reçu comme un film idéologique. Ce qui reste, quand tout est fini, c'est une idée. Le mal, c'est l'autre. Ne laissez pas l'étranger entrer dans votre territoire.
Oui, enfin, on peut aussi voir en dehors de l'alien auquel je tiens particulièrement, parce que je trouve que c'est la seule justification de cette absence de rationalité. On est face à des gens qui ne réagissent pas du tout comme des humains. Et je crois d'ailleurs que c'est un peu une des sources de l'angoisse que distille ce film. C'est parce que on ne sait jamais ce qui va se passer parce qu'on ne sait jamais comment l'autre va réagir.
Ben, je pense que si le metteur en scène nous écoutait, je crois qu'il serait très content. Parce que c'est en fait le but qu'il recherchait. C'est-à-dire de faire un truc où tout le monde y trouve son content, où on cherche, où on ne sait pas ce qu'on veut, où il s'amuse quand même beaucoup. Et nous, finalement, malgré les cadavres, on s'amuse aussi quand même pas mal.
Oui, moi je crois que c'est surtout un film où le metteur en scène se laisse aller à son plaisir d'imaginer des scènes après des scènes et on cherche un peu, peut-être inutilement, de trouver une explication à tout cette, à ce film. On a toujours besoin de trouver des messages à des films, mais des fois il faut passer complètement à côté de l'idée qu'il y a des messages.
Il ne faut pas être cartésien pour regarder ça.
Non, là je suis assez d'accord. Effectivement, c'est une succession de séquences assez réussies en elles-mêmes. Mais pas forcément, effectivement, dans une construction complète de film, quoi.
Oui, peut-être. Je comprends que qu'on puisse effectivement trouver ce sentiment de déception après ce film qui m'en rappelle d'un autre. Je ne sais pas si vous vous rappelez un vieux film fantastique de 1960, le village des damnés de Valchirila, où il y avait des enfants tout à fait étranges
qui avaient des yeux comme ça. Là,
oui. Et il y avait un peu ce côté-là aussi dans ce film. Voilà donc, est-ce qu'on peut le conseiller quand même? Il me semble que oui, en disant aux gens, faites attention, vous n'êtes pas forcé de vous plaire. Voilà.
Il faut le conseiller, mais il faut savoir qu'on n'en tirera pas forcément une grande morale.
C'est un ovni, c'est un objet différent des films habituels, voilà. Bon, il nous reste encore le temps de passer à quelques coups de cœur. Jacques, tu me disais que tu voulais parler du film de Jacques Doyon, mais Séances de lutte.
Ah oui, parce que pour moi, c'est un film intéressant. C'est un très curieux film que ce dernier film de Jacques Doyon. Alors, essayez, évidemment, c'est difficile, mais essayez d'imaginer un mélange d'Eric Rohmer et de l'Empire des Sens de Nakisa Oshima. C'est-à-dire un cocktail à la fois de joute verbale et de corps à corps de plus en plus sensuel, quoi. Donc le film, très rapidement, se passe en été dans la campagne normande. On connaît très peu de choses des personnages, même pas leurs prénoms. Elle est une écorchée vive, elle ressasse sa haine pour un père qui ne l'a pas aimé et qui passe sa colère sur le reste de la famille. Elle semble être un intellectuel, semble être un intellectuel à la campagne, dont le corps sportif et l'assurance cachent une certaine fragilité. Et elle prétexte l'enterrement de son père pour le revoir. Donc ils se cherchent, ils ont du mal à se trouver, avouent une certaine attirance l'un pour l'autre, et ils finissent par se lancer dans une curieuse thérapie à base de pugilat. Donc c'est une lutte physique, c'est vraiment un pugilat, mais elle est à la fois évidemment métaphore de la lutte amoureuse, et puis une sorte de défouloir pour canaliser sa colère à elle et exorciser son mal-être. Donc ils se lancent là-dedans à corps perdu, et la caméra suit toutes ces luttes, cette confrontation qui devient une sorte de rituel de rencontre, jusqu'à ce que finalement, bien, cette lutte purement physique se transforme en un corps à corps amoureux qui a lieu, en fait, la première scène d'amour, c'est au fond d'un ruisseau boueux dans lequel les corps se vautrent et se confrontent dans un ballet assez extraordinaire. Donc c'est un film un petit peu étrange, mais que moi j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui est dans la lignée des films précédents de Jacques Doyon, hein, où il explore le couple, comment il se fait et se défait, et il est servi par deux acteurs tout à fait remarquables. Donc Sarah Forestier se jette dans cette lutte avec une énergie peu commune, et James Thierrier est remarquable à la fois de force et de douceur. Donc on a là une espèce de combat amoureux dans tous les sens du terme. Alors le spectateur est un peu dérouté au début par ce mélange d'amour et de haine, ou de violence en tout cas, avant finalement d'être séduit par à la fois par l'acuité, la profondeur des dialogues, et puis par le jeu des corps. Donc un film intéressant que je recommande.
D'accord, ben je crois que tu nous as donné envie de voir ce film à ceux qui ne l'ont pas vu. Tatiana, toi, c'est un film tout à fait un autre genre, c'est une comédie, assez étonnante d'ailleurs, de la part de Bertrand Tavernier.
Oui, c'est sa première vraie comédie.
Quai d'Orsay, je n'ai pas dit son nom.
Quai d'Orsay, oui. Ce film est l'adaptation plus que réussie, à mon avis, d'une célèbre bande dessinée. Dans ce film, on voit le jeune Arthur, qui est interprété par Raphaël Personnaz, embauché en tant que chargé du langage au ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité de rédiger tous les discours du ministre, un ministre auquel Thierry Lhermitte prête son élégance et sa fougue. C'est un personnage vibrillonnant, il traverse le film comme une tornade. Sur son passage, les portes claquent, les papiers volent. Il épuise son armée de collaborateurs en tenant ses meetings en joguant sur les quais de la Seine. Il leur jette au visage, au bout de 3 secondes, les dossiers sur lesquels ils se sont échinés pendant des heures. Pour lui, il faut que les choses aillent vite. Tchac, tchac, tchac. Selon les 3 principes sacro-saints de la diplomatie qui lui servent d'argument pour ne pas avoir à émettre un avis. Légitimité, lucidité et efficacité. Le ministre a aussi des marottes sur l'importance d'utiliser des stabilos fluo pour la mise en forme de sa pensée, ou encore sur la nécessité d'avoir recours à Héraclite et à ses aphorismes pour résoudre les problèmes du jour, comme la crise de la pêche au thon. Le film est servi par des comédiens, mais délicieux. Le personnage qui me semble le plus réussi est peut-être celui qu'interprète Nils Arestrup. En contre-emploi total, pour la première fois dans un rôle de comédie, il prête au personnage de directeur de cabinet son physique de gros chat zen, qui semble toujours entre deux sommeils, mais a des solutions à tout problème. Bertrand Tavernier voulait rester dans la veine de la bande dessinée pour sa première vraie comédie. Mission accomplie, à mon avis. Son film, c'est La charge de la brigade légère dans les ordres de la République.
Merci pour cette analyse, Tatiana. Jean, si tu pouvais nous parler d'un film tout à fait différent, un film coréen, Snowpiercer, le train transpersonnage. Voilà, je ne l'ai pas vu d'ailleurs.
Oui, c'est un film coréen-américain d'un certain Bong Joon-ho, lui aussi d'après une bande dessinée d'ailleurs, d'un Français qui s'appelle Jacques Loeb. C'est quoi ? En 2014, donc l'année prochaine, pour lutter contre le réchauffement climatique, un gaz est diffusé dans l'atmosphère. Mais ce gaz, au lieu de... marche tellement bien qu'il provoque en fait une glaciation qui élimine l'humanité entière. Des rescapés prennent place dans un train qui fait le tour de la Terre en un an, sans jamais s'arrêter, et qui est autosuffisant. Toutes les couches de la population y sont représentées. Les pauvres en queue, naturellement, et les riches en tête. L'action commence 17 ans après le départ du train, dans les wagons de queue où la plèbe s'entasse sans lumière naturelle, avec une nourriture synthétique. Elle est aussi livrée à la brutalité des miliciens, et une révolte se prépare. Dès le début du film, on est saisi par l'atmosphère glauque du wagon de queue, avec ces créatures sales et pouilleuses, plongées dans une quasi-obscurité. Les brutalités et les humiliations des gardiens, la nourriture infecte, la drogue. Tout cela nous plonge dans un univers claustrophobe qui nous rappelle celui de l'excellent film de Richard Fleischer, Soleil Vert. Le rythme garde cette intensité jusqu'au milieu du film, au moment où les insurgés atteignent le milieu du train. À ce moment seulement, des vitres s'ouvrent enfin sur l'extérieur et on découvre les paysages de désolation glacée de la Terre. Avec la lumière, se produit un changement de régime dans le déroulement de l'action. On quitte l'atmosphère lourde et angoissante de la première partie du film pour un blockbuster hollywoodien banal, à l'idéologie de bazar sur les méfaits du totalitarisme. Donc ça commence bien, ça se termine mal. Mais globalement, c'est un bon spectacle qui mérite d'être vu. Ne serait-ce que parce que il a eu un succès absolument colossal. On dit que la moitié de la Corée a vu ce film. Il a eu un succès étonnant aux États-Unis. Et moi, quand j'étais une après-midi au hall, et la salle était pleine à 99% de jeunes. Donc, allez le voir pour savoir ce que vont voir vos ados.
Oui, merci Jean. Juste avant de conclure, je voudrais vous signaler quand même un film extrêmement important, c'est Le Dernier des Injustes de Claude Zaltzman. On reculera peut-être devant sa longueur, 3h38, mais on aurait tort tellement sa richesse est impressionnante. L'auteur de Shoah utilise un matériau datant de 1975, un enregistrement qu'il avait fait de Benjamin Murmelstein, qui est le rabbin de Vienne, qui fut l'interlocuteur privilégié d'Eichmann. Rien qu'à cause de ça, le film est à tout prix à aller voir. Bon, je crois que maintenant, il est temps venu de nous quitter. Merci à Tatiana, merci à Jacques, merci à Jean qui ont animé cette émission, merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique, et merci à tous ceux qui l'ont écouté, à qui nous disons à la prochaine fois. Chant contre chant est programmé tous les quatrièmes mardis du mois, de 13h15 à 14h. Notre prochaine rencontre aura donc lieu le mardi 24 décembre, et nous aurons le plaisir de vous souhaiter un joyeux Noël.